Chapitre 11. La grande idée de Sabi. Alix se pressait. Elle était en retard pour le conseil. C'était un de ces conseils sans intérêt où il n'allait rien se passer. On devait simplement évoquer le calendrier de l'année après les vacances, le lancement de la grande battue et du tournoi de l'étoile, puis l'organisation de la veillée du sanctuaire. Chacun de ces événements continuait de rythmer leur vie au fil des saisons. Elle redoutait que le conseil ne traîne en longueur. Chaque ministre allait arriver avec des propositions pour tout changer, bousculer le programme, innover, et au final personne ne serait d'accord. On finirait par voter et tout faire comme l'année précédente. Alix accéléra le pas, dérapant sur le parquet ciré du couloir des appartements de la reine. Même si cette longue matinée de discussion sans fin l'ennuyait, elle ne voulait pas arriver la dernière. Elle aurait pourtant préféré quitter le château et profiter du grand soleil d'été qui surchauffait les salles sous la pyramide. Elle aurait surtout préféré suivre Zizo dans Paris. Depuis 15 jours, chaque matin, il se levait tôt, avant que le soleil s'installe au-dessus des immeubles et transforme la ville en fournaise, et parcourait méthodiquement les rues de Paris avec Chrysante et Lalie. Alix les aurait volontiers accompagnés. Elle aimait bien Chrysante, mais ce n'était pas réciproque. La fille à la poupée ne pouvait pas la supporter. Alix n'était pas idiote. Elle comprenait évidemment pourquoi. Elle était reine. Elle était une fille du château. Et surtout, elle était amoureuse de Zizo. Alix, aux yeux de Chrysante la méfiante, était LA rivale. Alix, à l'inverse, ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la tendresse pour cet étrange ado. Peut-être même une forme de pitié, même si elle ne voulait pas se l'avouer. C'était elle, et pas Chrysante, que Zizo aimait. Elle parvint enfin au bout du couloir et maîtrisa la fin de sa longue glissade en bloquant net les deux semelles de liège de ses baskets. La porte de la salle du conseil, face à elle, était entrouverte. Zizo lui avait tout raconté dès le matin suivant la nuit au Père Lachaise, les bougies, l'ange démon volant, le livre, le récit de Pierre Sol, lu par Chrysante, la plaque gravée à la mémoire des enfants du nuage, cette fameuse plaque, ce fameux lieu de souvenir, caché sans doute dans un cimetière, qu'il devait découvrir. Chrysante ne me lira la suite du récit que quand on l'aura trouvé, avait expliqué Zizo. Alix aurait dû réagir comme une reine. Elle aurait dû en parler à Augénor et faire intervenir les soldats de Jeanne d'Arc. Chrysante gardait sûrement ce livre auprès d'elle. Il n'aurait pas été difficile de le lui arracher. Alix n'avait pourtant rien dit. Elle avait gardé le secret. Ce secret partagé entre elle, Zizo et Chrysante. Et si elle avait décidé de ne pas en parler au conseil, c'était avant tout pour une raison simple. Ce secret appartenait aux enfants du tipi. Dès que Zizo lui avait répété de mémoire le récit du médecin allergologue, Alix avait compris. Pierre Sol représentait pour ceux du tipi leur père, tout comme Marie-Lune était pour ceux du château leur mère. Pierre Sol appartenait à leur histoire. Il était leur passé, leur seul passé. Comment aurait-elle pu imaginer un seul instant le leur voler? Ce livre leur appartenait, il était sacré. Peut-être qu'Augénor, Liu ou Jeanne d'Arc l'auraient compris, mais elle préférait ne pas prendre le risque. Ils auraient été tentés d'évoquer, comme si souvent, l'enjeu supérieur de la sécurité et de s'en emparer pour l'étudier. Aujourd'hui, tout était apaisé entre les deux tribus. Qui sait quelle nouvelle escalade de violence une telle révélation aurait pu provoquer? Alix se tenait devant la salle du conseil. Un dernier remords continuait de la hanter. Marie-Lune avait sauvé les enfants du château et Pierre Sol avait sauvé les enfants du tipi. Il n'existait aucun rapport entre eux, apparemment. Pourtant, sur la couverture du livre de Pierre Sol, une lune, une femme et une tombe étaient dessinées. Augénor était persuadé que ces hiéroglyphes étaient la clé du secret de Marie-Lune et révélaient l'emplacement de son tombeau. S'il avait raison, quel lien unissait ces deux adultes ? les deux seuls à s'être adressés à eux après leur naissance. Augénor aurait sans doute été prêt à tout pour connaître la suite du récit de Pierre Sol. Et elle aussi, elle devait bien l'avouer, mais il fallait être patiente et faire confiance à Zizou et à Chrysante. Elle essaya de se reconcentrer, redressa sa couronne sur sa tête, poussa la porte et entra dans la salle du conseil, provoquant immédiatement un grand courant d'air. Pour lutter contre la chaleur, les fenêtres étaient toutes grandes ouvertes. Des rideaux dansèrent, des papiers s'envolèrent, des cheveux se soulevèrent, et six paires d'yeux se retournèrent vers elle. Elle était la dernière. Le conseil s'éternisait. La chaleur dans la grande salle devenait presque insupportable, malgré les fenêtres ouvertes et les feuilles de papier que les ministres agitaient en guise d'éventail. Des verres étaient disposés devant chaque membre du conseil. Ils avaient déjà vidé trois grandes carafes d'eau, de menthe et de citronnade. Cette année, la récolte de citrons et d'oranges sous serre avait été particulièrement abondante. Même Peggy avait droit à sa gamelle d'eau fraîche qu'il descendait laper toutes les 10 minutes avec sa petite langue rose avant de sauter à nouveau sur les genoux d'Augénor et de se rendormir. Alix résuma la situation. Comme prévu, on avait fait le tour de la question du calendrier, longuement, pour en revenir au point de départ. Le jour de l'équinoxe d'automne resterait une fête, afin de se préparer à affronter les longs mois de froid et de pluie. Il marquait la fin des vacances, des belles journées ensoleillées, mais aussi le moment de l'année où l'on basculait vers les nuits plus longues que les jours. La journée serait consacrée à la grande battue, lancée au pied du tipi, et le soir, tous se rassembleraient dans la cour carrée pour le lancement du tournoi de l'étoile. Tous, une nouvelle fois réunis, puisque ceux du château étaient les bienvenus à la grande battue, et que désormais, les ados du tipi qui suivaient les cours pouvaient eux aussi être désignés champions d'un des trois pavillons au tournoi de l'étoile. Alix but un grand verre d'eau fraîche. Il faisait tellement chaud qu'elle avait l'impression que les œillets de sa couronne étaient en train de se recroqueviller et qu'elle devait boire beaucoup, comme on arrose une terre trop sèche pour leur éviter de faner. Elle poursuivit son résumé des grands rendez-vous de l'année. Le solstice d'hiver serait fêté comme toujours depuis qu'ils étaient en âge de se souvenir, par la veillée du sanctuaire. La cérémonie serait strictement identique à celle des années passées. Ceux du château viendraient avec une bougie, ceux du tipi avec une colombe en cage, qu'ils laisseraient s'envoler. C'était l'hommage aux disparus, leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères, leurs sœurs, imaginés par les derniers adultes survivants après le passage du nuage. Seuls manqueraient les lasers bleus du soleil de fer illuminant la cathédrale à travers les vitraux. Mais le conseil, un an auparavant, avait décidé de les remplacer par un bref chant, « Nous, les enfants du nuage », composé par Soutim. Le cœur des 200 enfants, amplifié par l'acoustique des hautes voûtes du sanctuaire, donnerait à tous l'envie de pleurer. Ce même jour seraient désignés les candidats au tournoi de l'étoile, 4 candidats par pavillon, et non plus 3 comme auparavant, pour permettre éventuellement de désigner 2 ados du château et 2 ados du tipi, sans susciter de jalousie. Le tournoi se déroulerait, comme toujours, lors de l'équinoxe de printemps, pour fêter le retour des beaux jours. L'endroit où il se déroulerait était bien entendu encore secret. L'année précédente, le tournoi avait eu lieu dans un parc de Paris, les Buttes Chaumont. L'épreuve avait été particulièrement spectaculaire avec ses ponts suspendus à franchir, ses rochers à escalader et ses cascades du haut desquelles il fallait se jeter. Alix repensa un instant à cette compétition. Même si elle s'était annoncée prometteuse en sensation, Zizou n'avait pas souhaité y participer, d'une part parce qu'il l'avait gagné l'an passé, d'autre part parce qu'il ne s'était toujours pas complètement remis des accusations de tricherie. Bien sûr, il avait été innocenté, mais comme il avait décidé avec Alix de ne rien révéler des manœuvres d'Augénor pour le faire accuser, beaucoup continuaient de penser qu'il ne méritait pas sa victoire. Akan, lui aussi, en tant que secrétaire général de la paix, avait décidé qu'il ne serait pas candidat, même si chaque pavillon lui avait proposé avec insistance d'être son champion. Du coup, le pavillon des soldats avait remporté 4 médailles sur 5. Wayne et son chapeau avaient gagné l'épreuve de la force. Novak, l'épreuve d'adresse. Cheyenne et son éternel couteau, l'épreuve du courage. Diana, la fille soldat aux jambes interminables, l'épreuve de vitesse. Quatre soldats, deux du château et deux du tipi, la foule les avait acclamés avec un égal enthousiasme. Seule l'épreuve de la ruse avait échappé aux soldats. Contre toute attente, c'était un savant, et pas celui qu'on attendait, qui l'avait gagné, Valère l'historien. Il était parvenu le premier à résoudre un message rédigé dans une langue inconnue, un alphabet bizarre, du sumérien, d'après ce qu'Alix avait compris. Et si au final, Valère avait été le dernier à dénicher la coupe d'or posée en équilibre sous la cascade, sa prestation avait été saluée par les cris de toutes les lolligirls en délire. « Va, l'air, va, l'air !» Lorsqu'il était monté sur le podium pour recevoir sa médaille, elles avaient couvert de bisous sa grosse tête rouge. « Va, l'air, va, l'air !» Elle n'avait accordé aucun regard au beau Novak, trempé jusqu'aux os, après avoir décroché à coups de longs beaux le trophée sous la cascade. Les garçons avaient regardé la scène sans comprendre comment ce gnome boutonneux à lunettes pouvait provoquer une telle hystérie chez les filles les plus jolies. Alix vida un nouveau verre. « Tout le monde est d'accord ?» fit-elle devant les six autres membres du conseil qui ne pensaient qu'à quitter la pièce surchauffée. « On verra plus tard ce qu'on programme pour le prochain birthday. » D'ordinaire, Isalis aurait protesté sur le manque d'événements artistiques pendant l'année. Vanille aurait fait un long discours sur l'organisation matérielle de ces grandes journées et les divers stocks de nourriture, de bougies, de cages, de colombes, de drapeaux à prévoir. « Oui, on est d'accord !» répondirent-ils avec une belle unanimité, hochant avec prudence la tête pour ne pas asperger leurs voisins des gouttes de sueur qui coulaient sur leur front. « Non !» s'exclama une voix derrière eux. Tous se retournèrent. Sabi venait d'entrer.
Ah, « Désolé pour le retard !»
fit la lolligirl. « Mais il y a eu un bug. Je n'ai pas reçu le carton d'invitation pour le conseil. » Isalis fut la première à réagir. « Tu n'as rien à faire ici. Et d'ailleurs, on vient de terminer. » Elle rangea les feuilles éparpillées devant elle.
« Oh, oh !» s'amusa Sabi. « Cher ministre du temps passé, tu as oublié que moi aussi je suis ministre. Du temps passé à ne rien faire. »
Isalis, sous sa lourde robe de coton et son épais chignon, paraissait terrassée par la chaleur. Ses lunettes rondes glissaient dangereusement sur son nez moite.
Parfait. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux ranger les verres et les carafes de la salle du conseil. »
La ministre commençait à se lever. Alix prit doucement la parole.
« Qu'est-ce que tu veux, Sabi ?»
Elle dévisagea sa meilleure amie, partagée entre l'amusement de voir la routine du conseil ainsi perturbée et l'inquiétude de ce qu'elle allait encore inventer. Sabi attrapa un grand verre de citronnade. Isalis leva les yeux au ciel. Vanille paraissait tout autant excédée par cette entorse au règlement. À l'inverse, Liu, Akan et Jeanne d'Arc observaient l'apparition de Sabi avec intérêt. La lolligirl était vêtue d'un short à fleurs, d'un t-shirt blanc à bretelles, imprimé « Belle et rebelle » et d'une casquette orange vif décorée d'un « Love » en paillettes.
« Vite, Sabi !» la pressa Alix.
Sabi se posta devant la fenêtre pour bénéficier d'un peu de fraîcheur.
« Voilà, j'ai une proposition à faire au conseil. Je vous fais pas un dessin, on a tous 14 ans. Des garçons, des filles, bon, on pense tous à la même chose, vous voyez ce que je veux dire ?»«
Non, on ne voit pas », claqua Isalis en redressant ses lunettes sur son nez.
La plupart des ministres confirmèrent en s'épongeant le visage.
« Allez, vous n'avez pas une petite idée ? Liu, qu'est-ce qu'on t'apprend dans les cours de biologie ? Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ? Et toi, Zaza, de quoi parlent tous les livres que représentent tous les tableaux ? Ça commence par un A, la... »
Cette fois, ce fut Ogénor qui prit la parole.
L'amour, on a compris, Sabi. Où veux-tu en venir ?
Je vous propose d'organiser un grand bal pour tous les ados, ceux du tipi et ceux du château. On ne change rien au calendrier habituel, mais on le pimente juste un peu. Lors du jour de la grande battue et du lancement du tournoi de l'étoile, on lance aussi l'idée du grand bal. Chacun peut donc commencer à choisir son cavalier et sa cavalière. Les couples seront officialisés le jour de la veillée du sanctuaire et le grand bal aura lieu le soir du tournoi de l'étoile. Alors, vous en pensez quoi ?
Personne ne répondit. Était-ce parce qu'ils étaient tous liquéfiés par la chaleur ? Parce que personne n'osait parler en premier ? Ou parce qu'après tout, la proposition de Sabine les séduisait ? Elle décida d'en remettre une couche.
Eh oh, les grands vizirs ! Je vous rappelle juste pourquoi on est là. La mission qu'on nous a confiée, repeupler la Terre. D'accord, on est encore un peu jeune, mais moi, si j'étais quelqu'un de sérieux comme vous, je commencerais à y penser. Faut anticiper, non ?
Eleanor sourit. Contre toute attente, ce fut Vanille qui s'exprima la première.
Anticipe, Sabine, anticipe autant que tu peux. Embrasse qui tu veux. Mais pour le reste, chacun fera comme il en a envie. On a déjà bien assez de choses plus importantes à s'occuper. Je suis contre cette idée de grand bal.
1-0 contre la proposition de ma meilleure amie, pensa Alix. Ils étaient 7 dans la salle du conseil.
J'y suis également opposé, ajouta Liu, le ministre des inventions. C'est trop tôt. Nous avons besoin d'occuper nos cerveaux à autre chose. Reparlons-en dans un an.
2-0.
Contre aussi, Majesté, fit Jeanne d'Arc en plantant ses yeux dans ceux d'Alix. Nous ne savons rien du monde qui nous entoure, des dangers que nous courons. Nous devons apprendre à nous battre, avant d'apprendre à nous aimer.
3-0.
Sabine ne paraissait pas déstabilisée. Elle éclata d'un grand rire.
Nous devons apprendre à nous battre avant d'apprendre à nous aimer. Waouh ! Chapeau, Jeannot, je te savais pas aussi poète. T'as raté ta vocation de singe.
Alix prit le temps d'observer l'apparente assurance de Sabine, qui se reservait un nouveau verre. Elle avait beau faire la fière, pensa la reine, son projet de bal était bien mal engagé. Encore une seule voix contre, et il serait enterré. Alix décida alors d'intervenir. Pas seulement parce que Sabine était son amie, mais avant tout parce qu'elle trouvait l'idée excellente. Avec Zizo, elle formait l'un des seuls couples officiels, mais elle n'ignorait pas que beaucoup d'autres flirtaient, que les garçons étaient souvent le principal sujet de conversation des filles, et réciproquement, du moins elle le supposait.
Je vote pour ce projet de bal,
fit la reine en essayant de s'exprimer avec le maximum d'autorité.
Je suis certaine que si on leur demandait leur avis, une large majorité de ceux du château et du tipi voteraient pour, eux aussi. Notre devoir est de les représenter.
3-1. Il restait un mince espoir. Isalis coinça ses lunettes violettes sur son chignon et prit la parole en lançant le regard le plus noir possible à Sabine.
Ce que dit mademoiselle la ministre du temps passé à ne rien faire est stupide.
Commença la chef des singes.
4-1, compta Alix. C'est foutu pour le grand bal.
Nous avons bien d'autres missions sur cette terre que de la repeupler, continua Isalis. Mais j'avoue que sa proposition de soirée dansante n'est pas plus stupide que ce ridicule tournoi de l'étoile qui fait l'apologie des muscles, ou cette journée de la grande battue où l'on se transforme en sauvage à courir dans la boue après des marcassins. Si ce grand bal ne devient pas une espèce de délire barbare organisé dans un champ au son du tam-tam et se tient au contraire dans la grande galerie avec des robes longues, des costumes d'apparat, de la musique classique et tout un cérémonial courtois que les singes seront parfaitement organisés, je vote pour.
3-2, rectifia Alix dans sa tête. Isalis détourna vite le regard pour ne pas avoir à supporter le large sourire de Sabine. C'était logiquement au tour d'Akan de parler. Comme à son habitude, Ogénor s'exprimerait en dernier. Et nul ne savait ce qu'il en pensait. Sabine fixa avec insistance le géant du tipi, essayant de capturer son regard et surtout de ne pas laisser ses yeux descendre jusqu'à son t-shirt trempé de sueur.
« Akan va dire oui », pria silencieusement Sabine.
Il va forcément dire oui. Et si Eugénor dit oui, lui aussi, le plus difficile commencera. Écartez toutes celles qui tourneront autour d'Akane. Il est pour moi. Il sera mon cavalier. Je n'ai lancé cette idée de bal que pour danser avec lui toute une nuit.
Non,
affirma brutalement Akane. Sabi manqua de glisser sur le parquet et se raccrocha à un buste de Napoléon qui faillit basculer. Alix se mordit les lèvres. 4-2. Cette fois, l'idée du bal était bel et bien abandonnée.
Non,
répéta Akane d'une voix calme, sûre de lui.
En tant que secrétaire général de la paix, je ne crois pas qu'il soit bon d'ouvrir une compétition entre les garçons et les filles. La recherche de cavaliers et de cavalières va créer entre nous des moqueries, des jalousies, des chagrins inutiles. Chacun doit grandir, sortir de l'enfance comme il le souhaite, au rythme qu'il désire.
Il baissa les yeux et observa la table ou peut-être son verre ou même ses pieds.
Regardez-moi, j'ai grandi beaucoup plus vite que tous les autres et pourtant, je crois que je serais tétanisé à la simple idée de devoir danser devant tout le monde, et plus encore d'embrasser une fille.
Jeanne d'Arc, Liu et Vanil accueillirent la tirade d'Akane avec un éclat de rire gêné. Ils n'avaient pas l'air plus à l'aise avec le sujet que le secrétaire général de la paix. Sabi, d'un geste souple, se hissa sur la fenêtre ouverte et s'assit sur le rebord, plus de 6 mètres au-dessus du vide. Elle regarda les ados qui se baignaient dans les petits bassins d'eau du verger, en chahutant torse nu.
« Sortir de l'enfance !» répéta Sabi dans sa tête.
« N'importe quoi !»
Elle voulait tout, devenir grande le plus vite possible et rester insouciante comme une enfant de 8 ans. On n'était pas obligé de devenir sérieux quand on grandissait. Elle pivota. Les autres ministres rangeaient déjà leurs affaires, vidaient leurs verres, agitaient une dernière fois leurs feuilles de papier devant leur nez avant de la chiffonner. Eugénor n'avait pas encore parlé, mais son vote ne changerait rien au résultat. Sabi arrêta son regard sur Akane. Elle était partagée entre l'envie de lui arracher les yeux, c'était tout de même incroyable qu'une telle force de la nature soit aussi rabat-joie, et l'envie de le prendre dans ses bras, de lui dire
« Viens, mon grand chef de la tribu des sauvages, je vais t'apprendre à danser, à t'amuser et à embrasser. »
Elle n'arrivait pas à lui en vouloir d'avoir voté contre son projet de bal. Pire, elle trouvait plus craquant que jamais ce mélange improbable entre son allure de colosse, sa sagesse de vieillard et cette timidité de petit garçon. Alors que tout le monde était presque levé, Eugénor prit la parole. Peggy, sur ses genoux, redressa à peine une oreille.
« À titre personnel, lâcha-t-il, j'étais plutôt favorable à cette idée de bal. Je pense que c'est ce que Marie-Lune aurait voulu. Nous n'avons été choisis que pour une chose, notre capacité à préparer ce monde pour une nouvelle génération. Une nouvelle génération que nous engendrerons. Ce sera notre seule responsabilité dans quelques années. Mais mon avis ne changera rien, puisque la majorité pense que c'est prématuré.
4-3. Alix ne chercha même pas à dissimuler sa grimace face à la dernière prise de position d'Eugénor. Désormais, elle connaissait sa méthode. Ne jamais voter pour ce qu'il pensait vraiment, tout en s'arrangeant pour que ses idées l'emportent. Ainsi, il se retrouvait à la fois dans le camp des vainqueurs et dans celui des perdants. Après tout, supposa Alix avec méchanceté, Eugénor avait toutes les raisons d'être hostile à cette idée de bal. Pas sûr que, assis dans son fauteuil, il ait vraiment envie de regarder tout le monde danser dans la galerie d'Apollon. Elle était tellement déçue pour Sabi. Son ami, pourtant, toujours assise sur le rebord de la fenêtre, ne paraissait pas particulièrement vexée que son idée ait été refusée par le conseil. Elle regardait en souriant en direction du fleuve.
« Au fait, »
fit Sabi avec nonchalance, comme si elle avait déjà oublié son projet,
« Lunella me charge de vous dire que tout va bien sur l'Albatros. Toutes les ondes qu'elle reçoit de Solario sont très positives. »
Les ministres accueillirent la nouvelle avec soulagement. Ils allaient quitter la pièce.
S'il vous plaît,
fit Sabi en sautant de la fenêtre.
2 secondes encore, messieurs, mesdames, les grands vizirs.
Elle se trémoussa pour sortir 2 feuilles de papier pliées de la poche arrière de son short.
J'ai oublié de vous dire Comme je savais qu'il ne pourrait pas assister au conseil, j'ai exposé mon idée de bal avant que l'Albatros ne prenne la mer, enfin le fleuve, aux deux ministres qui manquent à l'appel, Solario et Agnel. Monsieur le ministre des Voyages, ainsi que monsieur le ministre des Plantes, des Animaux et de la Terre, ont même eu le temps de me signer une petite déclaration sur le quai où ils ont inscrit leur vote. Tenez, Majesté.
Sabi tendit d'un geste très solennel les deux feuilles de papier à Alix, non sans s'autoriser une petite révérence moqueuse et un clin d'œil. La reine déplia les deux feuilles. Elles avaient incontestablement été rédigées et signées par Solario et Agnel, et elles exposaient avec précision leur opinion sur la proposition de Grand Bal. Augénor restait impassible. Vanil, à l'inverse, était devenue toute rouge, telle une cerise trop mûre que la chaleur allait soudain faire éclater. Jean d'Arc et Liu paraissaient simplement surpris, mais aucun n'osa protester. Voter sur papier était déjà arrivé plusieurs fois, notamment quand un des ministres était malade ou devait s'absenter.
Solario a voté en faveur du grand bal, lut Alix en posant une première feuille sur la table.
4-4.
Agnel aussi,
fit-elle en posant la seconde. 4-5. Le projet de grand bal obtenait la majorité. La salle du conseil semblait sur le point d'exploser, comme si la température avait encore augmenté de quelques degrés. Bien joué, Sabi, exulta silencieusement Alix, alors qu'un grand feu d'artifice s'allumait dans sa tête. Et merci, Sabi, ajouta-t-elle en lançant une dernière petite fusée. Elle se réjouissait déjà de partager toute l'année ce grand projet romantique avec Zizo jusqu'à l'apothéose du bal. Son grand sourire tranchait avec l'attitude consternée des ministres qui avaient l'air de ne toujours pas comprendre comment ils avaient pu se faire à ce point rouler dans la farine. Mais surtout, le regard pétillant de la reine contrastait avec les yeux effarés d'Akan. La sueur coulait en rivière sur son crâne rasé, dans sa nuque et sous ses aisselles. Le secrétaire général de la paix aurait sûrement été moins inquiet d'avoir à affronter une meute de loups à main nue que d'avoir à inviter une fille à danser avec lui. « Ne t'inquiète pas, mon grand », s'amusa Alix, tout en rejoignant Sabi près de la fenêtre. Elles avaient des tas de confidences à échanger et d'hypothèses à partager sur les couples qui allaient se former. « Nous ne sommes plus dans le monde d'avant. Dans le nouveau monde, ce sont les filles qui font le premier pas. »